Wilson. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Frédéric Tigris. Daniel Morin.
Daniel.
Tom Juila.
Bonjour
à tous. Richard Ormac. Et notre invité est Christophe Baratier.
Ah, quelle ambiance.
Christophe Baratier.
Nous allons donc
parler de ces choristes qui débarquent en comédie musicale. J'espère, Tom, que vous avez compris. J'ai peur, vous avez vraiment compris pourquoi on a invité Christophe Baratier?
Bah, c'est pour les choristes.
Ah,
bah voilà, on enchaîne. Allez-y.
Ah, vous savez.
Okay, question. Okay. Et puis voilà, on y va.
Non, oui, effectivement. Il s'embête de moins en moins.
Bonjour Christophe Baratier.
Bonjour.
Christophe qui a un talent très particulier. Nous fout des chansons dans la tête pendant 15 ans. Et quand au bout de 15 ans, elles nous sont un peu sorties de la tête, eh ben vous revenez nous faire une petite piqûre de rappel. Bravo Christophe. Donc vous venez pour l'adaptation des choristes en comédie musicale. Voilà. Bonne journée à tous. Comédie musicale, ça va jouer au Folies Bergères qui sera l'affiche des février. D'ailleurs, c'est pas une comédie musicale, c'est un spectacle musical. Parce qu'il y avait aussi les opéras rock, on l'a vu avec Mozart, avec Le Rouge et le Noir. Mais nous, on dira spectacle musical parce qu'on a du respect pour l'opéra et pour le rock. Christophe Baratier, vous êtes donc le réalisateur dont vous doit le succès des choristes, mais aussi plus récemment de l'Outsider, qui racontait le parcours de Jérôme Kerviel. C'est vrai, quitte à faire un spectacle musical, autant le faire avec les choristes, parce que l'histoire de Kerviel en comédie musicale.
Ah, c'est pas bête.
Disons qu'à part chanter le blues du businessman et argent trop cher, je vois pas ce qu'on aurait pu donner.
Alors
les choristes, ça se passe en 1949 et c'est l'histoire de Clément Mathieu, fraîchement nommé surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs appelé Fond de l'Étang. Nom plutôt bien trouvé pour faire flipper les gamins. Tu nous casses les couilles, tu te retrouves au fond de l'étang. Et Clément Mathieu décide de monter une chorale avec les élèves afin de les ouvrir à la musique et au partage, avec entre autres la chanson « Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés ». Donc voilà, comment les refaire flipper une deuxième fois pour bien leur rappeler qu'ils sont orphelins. Alors, pour les plus jeunes, je resitue Les Choristes, un film sorti en 2004 avec Gérard Jugnot, qui a tellement cartonné que Beyoncé a chanté le thème musical pendant les Oscars.
Nico.
Parce que je crois que vous avez été deux à le lancer en même temps. La régie est vous, Nagui. C'est vous qui faites la régie dorénavant,
c'est
Nagui. C'est parti, vous repartez
c'est
en régie.
Beau,
non, mais c'est beau.
C'est bien cette version dans un hangar d'Orwassi.
Si on avait été, si on avait été vraiment synchro, on aurait dû Fazim.
C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pas du français, mais c'est beau. Hein, on dirait un sourd et muet qui chante. Non, vous rêvez pas, j'ai bien utilisé Gérard Jugnot et Beyoncé dans la même phrase. Et elle a eu quoi en retour, Beyoncé? Et bah, que dalle. Pourtant, c'était pas compliqué pour Jugnot de chanter Crazy in Love au César. Quelle ingratitude! Ou quelle lucidité! En tout cas, on saura jamais. Bon, bref. On ne peut plus Rihanna qui chante Je vole de Sardou pour rendre hommage à la famille Bélier. Les Français pourront dire, on a bien niqué le game des Oscars. En même temps, Rihanna, elle a pas besoin de Sardou pour voler. La drogue lui convient très bien. Alors, pour donner vie à ce spectacle, trois équipes d'une quinzaine d'enfants, je crois, à peu près, ça fait... Il y a combien d'enfants au total?
Ils jouent en alternance, en réalité, parce que ils sont donc 15-16, mais les lois assez contraignantes, légitimes, mais assez contraignantes, empêchent les enfants de jouer deux fois par semaine, ce qui veut dire que j'ai constitué trois équipes, les mêmes adultes, hein, quand même, je les change pas, mais 15 enfants, enfin, 45 enfants qui vont jouer une alternance pour qu'ils soient tous les 15 chaque soir, donc pendant trois soirs, je change à chaque fois.
45 enfants, ça c'est...
Oui, alors c'est 45 enfants qui, je dois le dire, j'ai eu la tâche facilitée parce que les choristes aidants à l'époque, j'avais du mal à trouver quand même une chorale, on va dire une maîtrise de haut niveau qui me... Heureusement que les enfants, les petits chanteurs de Saint-Marc à Lyon nous avaient cru, mais là j'ai eu, grâce au succès aidant et la notoriété, la chance de travailler avec la maîtrise des Hauts-de-Seine et son chef Gaël Darchen, où il y a quand même une très grande qualité, un réservoir à peu près, pardonnez-moi de parler comme ça, enfin, disons, un réservoir de 120 voix, oui, c'est un peu là-dedans. Et j'ai pu constituer mes trois équipes et trois moranges, fallait trouver trois moranges, fallait trouver trois pépinots, fallait trouver à chaque fois des rôles. Et donc, malgré tout, c'est quand même la même mise en scène, mais j'ai eu l'impression d'avoir fait trois fois. Et évidemment, c'est par rapport au film, où une fois qu'on l'a maîtrisé, la séquence sort, c'est mécanique, elle sera toujours la même. Or là, j'ai l'impression d'être en direct chaque soir. Donc il y a une difficulté, mais ça fait partie... c'était la plus grosse difficulté que je voyais, parce que des enfants chaque soir, c'est pas les mêmes, les adultes en face sont les mêmes, mais même des adultes, sont-ils réguliers? Non, pas du tout au théâtre. Alors à chaque fois avec un nouvel enfant, voilà. Mais c'est ça qui rend l'entreprise à la fois dure, mais qui me fait vibrer.
Bon, bah, c'est très beau. Souligner aussi, très important, qu'une partie des bénéfices, je crois, ira à l'association Enfance et Partage, célèbre association qui... qui partagent les enfants. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez voir sur votre chemin des gamins au fond de l'étang et un beau spectacle musical, Les Choristes aux Folies Bergères.
Et puis, j'aimerais aussi, parce que c'est vrai que vous avez parlé, c'est pas une comédie musicale, c'était du théâtre musical ou du spectacle musical. La division n'est jamais très très claire. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on va entendre évidemment les chansons que tout le monde connaît, mais que j'ai fait des personnages adultes, des personnages partiellement chantants. C'est-à-dire que c'est pas des chanteurs au sens pour faire un album, mais ils chantent agréablement, un petit peu comme chantait Bourvil et tout. Ce sont des acteurs qui vont parler un petit peu en chanson de temps en temps.
L'important, c'est le rassemblement, de toute façon.
C'est l'important, c'est ce que j'ai toujours pensé.
Merci.
Et ma priorité, c'est l'emploi.
Top,
la bande originale, la vie. Sur France Inter.
Et ça, pour employer, vous allez employer du monde. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Du 23 février au 21 mai, aux Folies Bergères, comme vous l'avez dit, tous les soirs, vous allez risquer. Puisque c'est ça aussi, la magie du direct. C'est la fragilité du spectacle.
Oui, c'est comme si vous aviez une émission compliquée à faire en direct. Et qu'en plus, chaque soir, on vous change des intervenants. Donc tous les trois soirs, vous dites est-ce que ça va tenir.
Ça s'appelle le 20h, ça.
Oui. Et si vous mettez par exemple, si vous faites des corrections, vous n'en aurez le fruit que trois jours après, puisque évidemment l'enfant à qui vous adressez ne revient lui que trois jours après. C'est pas du jour au lendemain. Les surprises avec les enfants sont toujours dans le bon sens. C'est souvent l'incident qui crée la beauté d'une scène. Par exemple, dans la scène du film où ils passent tous devant Clément Mathieu un par un en chantant n'importe quoi, enfin sur les préparer le matin. Mais on a gardé finalement au montage tous les incidents. Celui qui se trompe, celui qui se souvient plus. C'est ça qui rendait.
On va rappeler
grâce.
Que Clément Mathieu, c'est le surveillant, c'est le pion qui rêvait d'être prof de musique.
Rêvait d'être musicien et on lui a expliqué que sa musique, il a pas eu de chance. Et puis à coup, il est obligé d'être pion. Et d'ailleurs, il le dit, je range à jamais mes papiers à musique parce que finalement, ça sert à rien. Mieux vaut l'accepter. Il est pas triste, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est devant l'échec, le désespoir.
C'était le personnage interprété par Gérard Jugnot.
C'était Jugnot. Mais je crois qu'il y a chez, donc, Mathieu, une frustration de se dire, je serai jamais musicien, je range mon papier. Maintenant, je vais m'occuper de ses enfants et ses enfants qui n'ont, a priori, aucun don pour chanter. Tout d'un coup, ils chantent un peu, ils chantent. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, et si je ressortais au papier à musique, et donc la chorale, déjà.
Mais pour avoir cette progression de l'enfant un peu bougon, rebelle, voire le cancre qui a pas envie de chanter, puis qui devient non seulement partie prenante de la chorale, mais qui va apporter toute son émotion et la chair de poule, parce qu'il y a une note qui va sortir et qui va faire que tout le monde va être scotché en disant waouh, il se passe quelque chose de bien précis à ce moment-là. C'est pas que savoir bien chanter, c'est-à-dire c'est savoir bien jouer, c'est garder en garder un peu sous le pied pour envoyer au bon moment.
Bah oui, parce que le principe, on l'avait vu dans le film, le principe de cet enfant qui ne chante pas, c'est aussi qu'il ne parle pas. Par conséquent, il faut que ça existe sans parler. Il y a des enfants qui ne communiquent, qui ne savent pas très bien communiquer. Quand ils ne parlent pas, il ne se passe rien. Or, il y a des enfants dont le silence est très éloquent.
Et, donc il fallait trouver pas que des chanteurs, mais aussi des comédiens.
Ah, bah, bien sûr, Alors j'ai une petite chance, c'est que il est assez rare, avec des enfants, la maîtrise des hautes scènes est souvent celle qui fait jouer les enfants à l'opéra, dans les troupes. Donc tous ces enfants qui ont joué sur scène, même si à l'opéra les enfants en chœur sont un peu une masse et qu'on leur demande pas d'interpréter, ça serait quand même très étonnant que certains d'entre eux n'aient pas le sens de la scène et le sens de jouer. J'ai pas eu de difficulté pour trouver, entre guillemets, je dirais pas de bons comédiens, parce qu'un enfant est-il un bon comédien? On peut pas dire ça. C'est pas bien de leur mettre des prix d'interprétation.
Non, mais si on est sur scène, on joue un rôle.
Il faut trouver celui qui incarne le personnage directement. Donc, par conséquent, ça sera jamais un contre-emploi. Ça sera toujours quelque chose qui lui correspond. C'est ce que j'avais trouvé avec Jean-Baptiste, Monique, était exactement la nature. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand un enfant est à sa place et il n'a pas peur et il y va, tout à coup, ceux qui ont peur, c'est les adultes. Parce qu'une scène à deux, il faut manger les adultes.
C'est pas Emmanuel Macron, d'accord. Ouais.
Et c'est ça qui est magnifique qu'on va retrouver là, parce que moi-même, j'aurai des, comme si jamais trois fois le même, il y aura chaque fois des choses différentes, mais je pense que parfois, il y aura peut-être forcément un petit incident, mais qu'il va naître de ça une certaine
grâce. Alors, les adultes, dans le rôle, entre guillemets, j'allais dire dans le rôle de Gérard Jugnot, non, dans le rôle de Clément Mathieu, incarné par Gérard Jugnot.
Oui, Jean-Louis Barcelona, que beaucoup d'entre nous connaissent sans le connaître, parce que si on le voit, on dit oui, il est assez proche de Jugnot, mais quand je raconte par exemple une fameuse publicité que je ne vais pas citer, mais où il s'est déguisé en sosie de Polnareff, de Crédit, il dit « mais t'es son portrait craché !» en parlant de son fils.
C'est quoi, c'est TLM.
Oui, l'arbre et puis les deux parents. Ouais, qui se... Et nous avons, oui, ensuite Jean-Louis Barcelona, qui...
Vous avez embauché le bonhomme TLM?
Non,
celui qui joue Polnareff. Et en face de dans lui, le rôle de François Berléand, c'est-à-dire Rachin, le directeur tyrannique.
Ouais. Bernard Farcy.
Excellent.
Bernard Farcy, que tout le monde connaît principalement dans Taxi, et puis peut-être, il préfère d'ailleurs parfois qu'on lui rappelle, enfin de la même façon qu'il a joué De Gaulle et qu'il a eu pour de Bernard Stora et qu'il a eu de nombreux prix pour cela.
Le rôle de Cadmerade
c'est fusionné. Alors le rôle du
il y a un prof, on sait.
Oui, il y a un prof de maths et puis il y avait un surveillant qui était joué par Cad. Mais enfin là pour le coup, j'avais besoin de resserrer un peu, de fusionner, et c'était le principe de cette adaptation. D'ailleurs, en travaillant en adaptation, ce qui était incroyable, c'est qu'on a fait de nouvelles chansons avec Bruno Coulet, j'en ai composé certaines lui aussi, mais c'est surtout qu'elle rend, il y avait une telle cohérence à l'affaire que parfois je me demande si ce spectacle n'existait pas avant le film. C'est-à-dire que, oui, tout est né de là, et en fait, je me rends compte, on fait souvent des adaptations cinématographiques d'un spectacle, il est assez rare qu'on fasse le contraire, mais là, j'ai l'impression que ça existait, que c'est là qu'est née la matrice. Je me suis rendu compte aussi que malgré moi, les personnages étaient devenus pour le public des archétypes auxquels il était même moi difficile de toucher. Par exemple, si je disais, regardez, c'est Morange, je vois un roux avec des... Mais non, c'est pas lui Morange, pas possible, il est pas comme ça.
C'est ça.
Comme si on parlait de Tintin.
L'image est trop forte.
Oui, si je parlais Clément Mathieu, le personnage Clément Mathieu, il arrive un mec de 2 mètres, mais non, c'est pas lui, c'est pas possible. C'est comme si ça leur appartenait maintenant davantage qu'à moi.
Et alors, comment vous expliquez justement que les gens connaissent si bien cette histoire avec le film et éprouvent encore cette envie d'aller retrouver ces personnages?
Alors, ça me permet de... et c'est vrai que l'autre fois avec Jean-Baptiste Monnier, c'était les 10 ans, on a fait un anniversaire en province, et le nombre de jeunes filles qui étaient là, de petites filles qui avaient 10 ans, donc qui étaient nées au moment du film, et répétaient exactement ce qui se passait à l'époque avec leurs parents. C'est-à-dire que c'est la même passion, c'est les mêmes chansons, donc il y a quelque chose qui, malgré nous, est devenu, on va dire, un classique. Mmh. Et ce qui prouve bien, ça me permet de le dire, que ce procès en nostalgie que j'ai eu, c'est pas que je veux pas être nostalgique, mais la nostalgie de quoi ? Moi-même, j'ai jamais été nostalgique d'une école de redressement en 1949.
On vous a fait ce procès-là ?
Oui, ben, c'est pas un procès, mais c'est, disons, on a expliqué le succès.
Alors que moi, j'ai plutôt vu ça comme une qualité du film.
Non, mais surtout qu'on a expliqué le succès à travers ça. Or, comme il y avait 70% d'enfants dans les publics, en quoi les enfants sont-ils nostalgiques à 10 ans ? Ça veut rien dire. Il n'y avait aucune nostalgie. Mmh. Qui peut être nostalgique d'un internat de rééducation en 49 Et donc, je pense que c'est le procès, enfin, cet argument contre s'est écroulé de lui-même. Et en fait, ce film, ce n'est pas du tout un truc nostalgique, mais en étant placé dans le passé, il a une espèce de valeur de conte, je crois. C'est pour ça que la plupart des Disney, vraiment mythiques, sont toujours passés dans le passé. Ça nous permet, non pas d'être dans l'actualité, mais d'être plus universel.
Alors, on a une histoire, qui est celle des choristes, avec des personnages, avec des caractères, avec des tubes, parce que quand même c'est essentiel d'avoir... Vous gardez les fondamentaux.
On sent que François Fillon va arriver au pouvoir. on sent qu'il arrive.
Il n'y a pas une trace de catholicisme dans le film.
L'important, c'est de rassembler, de toute façon.
Vous gardez donc ces fondamentaux.
Si je ne mettais pas ça, il y aurait un émeute là. Ouais.
Vous avez rajouté donc de nouvelles chansons qui viennent étayer le propos de chaque personnage, c'est-à-dire qu'il se raconte en chanson.
C'est ça. En fait, ça ne donne pas l'impression d'être rajouté. Comme vous dites, ça donne l'impression d'être naturel. C'est-à-dire qu'il y a des choses au cinéma qu'on peut faire passer par des gros plans, par des séquences d'enchaînées musicales. Mais là, tout à coup, quand par exemple le pion les entend chanter et qu'il dit silence, 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 et puis d'un coup, il se dit silence. Mais pourquoi silence ? La musique entre là. Moi qui n'avais... Il chante pas très bien, mais il chante. Moi qui avais juré de ne jamais ressortir mon papier à musique, ne jamais dire jamais. Et d'un coup, la musique naît pendant qu'il parle. Et là, tout à coup, c'est comme... Peu importe qu'il ait une très belle voix ou pas, au sens vocal. Ce qu'il faut, c'est qu'il chante en rythme et agréablement. Mais il fait jamais, ne jamais dire jamais. Donc la musique entre très naturellement, comme si en fait il chantait pas, comme si c'était une projection lui-même. Ce qui fait que c'est pas du tout bizarre, même quand on entend au début Rachin, le directeur, qui dit action, réaction. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tango, action, réaction, punition, répression, la seule manière de la maison. Il chante, mais quand il va dire on interdit de chanter, on comprendra, parce que les seules vraies voix, c'est les enfants. Quand lui chante, on n'a pas l'impression que c'est une chanson. C'est l'expression d'un personnage.
C'est ça, de ce qui peut se passer même dans...
Ouais, certains auditeurs ont fait un AVC en essayant de comprendre tout ce qui...
Non, pas du tout, c'est très clair.
Les enfants vont être les seules vraies belles voix. Par conséquent, il y aura une très grande différence entre leur thème et celui que chantent les autres, qui est un petit peu comme si on arrivait au bureau le matin et dit « Je suis en retard, je m'énerve ». C'est un personnage qui est exactement ce qu'il chante. Quoi.
Quel parti pris pour la musique avez-vous choisi ? Y a-t-il un groupe qui joue, un orchestre ? Est-ce que ce sont des bandes qui vont passer ? Est-ce que c'est le problème des Folies Bergères ?
Oui, c'est le problème des Folies Bergères.
Il n'y a pas de fosse.
Par conséquent, c'était quand même vu qu'on a à peu près 20 personnes qui vont chanter sur scène, il fallait un orchestre, et évidemment c'est un orchestre symphonique et qui n'est pas
qui
est enregistré préalablement.
Et des décors, beaucoup de lieux, beaucoup de changements de
on est allé avec Stéphanie Gère, la scénographe.
Comment jouer les extérieurs aussi, oui. en marchant dans l'allée.
Voilà, alors pardonnez-moi, ça fait toujours arrogant quand on essaie d'expliquer une théorie, mais il y a quelque chose, un courant qui s'appelle le réalisme poétique, qui était, sont entendus, je m'attache à une certaine réalité visuelle, mais je la décale en montrant qu'elle est fausse, mais tout en faisant pas de concept. C'est-à-dire que si vous faites une forêt où il y a trois pauvres troncs, bien placés, très éclairés, on se dit, ok, c'est un concept, il a voulu représenter une forêt avec trois troncs. Parce que moi, on la représente poétiquement, on voit que c'est pas une forêt, mais d'un coup, il y a une espèce de transparence, et tout à coup, un petit peu, je vais dire dans certains principes même de La Belle et la Bête, quand la forêt s'en va, la grille apparaît, mais pas forcément à vue. En tout cas, je fais toujours un leurre pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on montre qu'on est malin, qu'on montre une belle mécanique. Ouais. Et à l'arrivée, le système est extrêmement malin, très beau, mais c'est surtout que ça ressemble terriblement, ça évoque le lieu un peu triste du film. Au début, on est très dans les gris, en noir et blanc, c'est triste, ces murs sont gris, et peu à peu, comme dans le film,
ça, c'est clair.
En deuxième partie, ça se réchauffe, et on arrive au printemps.
Les choristes donc sur scène, cette comédie musicale se jouera du 23 février au 21 mai aux Folies Bergères. Vos
et
oreilles...
en tournée après dans toute la France, heureusement.
Ouais. C'est à l'automne dans la tournée.
Oui, en zénith, oui.
Bien sûr, vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand vous avez su que Christophe Baratier venait.
Absolument, et quand j'ai pensé à vous, Christophe Baratier, j'ai pensé à votre dernier film sorti en salle, on l'a évoqué, L'Outsider, qui revient sur l'histoire de Jérôme Kerviel, ce trader qui est entré dans l'histoire.
Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille?
Ils verront bien qu'on m'a laissé faire.
C'est une preuve,
on m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve? J'ai pas touché à ce putain de fric, il est dans les caisses, j'ai pas pris un centime pour moi.
Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs.
Bon, il y a un nouveau trader qui intègre l'équipe.
L'esprit d'équipe, avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus.
Une noisette, là, c'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année.
Une maison.
Chaque trader a ses stratégies.
Tout ce que tu vas gagner en plus.
30, 35, 40.
Les meilleures réserves.
Tant t'es sur ton truc, là.
Non, c'est ça qui est bon.
Concrètement, là, tu les planques comment?
Il n'y a pas marqué Wall Street Institute, hein.
Voilà, un film haletant qui retrace l'histoire de Jérôme Kerviel. Vous nous avez raconté lors de votre dernière venue, Christophe Baratier, que vous l'avez rencontré, que vous êtes mis à discuter avec lui comme ça, et que c'était une rencontre un peu perturbante. Ça vous a donné à réfléchir, à lire, à vous documenter.
À gruger.
Non.
Est-ce que la sortie du film a changé beaucoup de choses pour Kerviel? Parce que c'est quand même, vous nous parliez d'un film avec des pressions, avec un environnement assez tendu, on va dire.
En bien ou en mal, en fait.
Oui, ouais. Mais l'après Kerviel, parce qu'il y avait, c'était quand même une histoire qui est jugée, il y a un procès.
Oui, c'était une histoire encore vivante.
Oui. Vous hésitez à répondre?
Oui, parce que dans la question, est-ce que ça a changé quelque chose pour lui? De manière personnelle, sans doute, parce que c'est un chapitre dont on parlait depuis 4 ans. Le film est fait, c'est rangé. C'est une. En revanche, est-ce que ça a changé judiciairement quelque chose? Non. Mmh. Mais curieusement, peut-être que j'aurais bien aimé. Ce film, on l'a vu finalement. Nous avons compris qu'on était un petit peu trop sur le judiciaire, aux dépens d'une certaine humanité. Mais ça n'a pas changé de ce côté-là, mais ça n'a pas aggravé. Mmh. Par exemple, ça n'a pas été perçu non plus comme un message totalement Kerviel le héros, Kerviel ce chevalier blanc, qui aurait pu être préjudiciable pour lui, parce que c'eût été assimilé à une espèce de pièce du dossier. Or, quand j'ai montré le film, je veux dire que Jérôme et ses proches étaient très émus, parce que ça correspondait à une réalité humaine. Et donc, il l'a vécu comme ça, non pas judiciairement. Mmh. Mais en revanche, j'ai eu un phénomène curieux dans son... parfois dans son comité de soutien, qui me dit « c'est très à charge quand même ». Je dis « comment ça ?»« Bah oui, à la fin, on voit moi qui pète les plombs. » Je dis « mais c'est ce que Jérôme m'a dit, et d'ailleurs il n'a pas discuté. Comment voulez-vous montrer qu'il pète les plombs ?» Montrer quelqu'un qui pète les plombs n'est pas l'accabler. Ça nous est tous arrivé. Mais il voulait que ça corresponde à une vérité, enfin une vérité, à une version qui était beaucoup plus... Mais c'est surtout, je crois, que la grande faute que régulière, c'est d'avoir voulu parler de cette affaire avec des innocents et des coupables. C'est plus pratique, hein, de dire, voilà, c'est eux qui sont coupables,
oui,
et les autres innocents.
Et d'un coup, de l'autre côté,
c'est innocent, les gens s'opposent là-dessus. Mmh. Alors qu'en réalité, on est dans une zone grise, très difficile à cerner, mais qui est moins vendable, moins commerciale.
Publiquement, pour Jérôme Kerviel, c'est un film qui a dû lui aussi redorer un peu son image publique. J'imagine ça, c'était important, parce qu'il y avait un petit déficit à un moment, j'ai la sensation de confiance.
Pour le coup, quand on a d'un côté Jérôme Kerviel est quelqu'un qui vit depuis 5 ans dans cette histoire, qui peut pas vivre autrement et qui est parti dans une lutte très longue. Ça sera difficile à refermer cette histoire. Mmh. Mais quand on a en face de soi la Société Générale, lui, il a zéro, un avocat qui travaille pour zéro. Quand on a 60 millions d'euros à peu près, c'est ce qu'a dû dépenser la Générale pour faire sa défense, on a une défense très élégante, on n'est pas trop visible. Quand on n'a rien, on va danser sur la plage, oui. On marche avec une robe et puis on va dans les émissions avec tout le monde, Mélenchon, on va à la fête du Mas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on n'a rien? Bah, on fausse le ridicule, on fait la fête devant, on va danser devant la maison de la radio. Alors évidemment, on s'expose. En revanche, moi je peux vous dire, tout le monde s'est moqué. Ah oui, regardez, il a rencontré le pape et puis il montait à pied à Paris. Oui, alors c'est drôle. Oui, d'accord, c'est marrant. Mais en même temps, moi, je l'ai fait avec lui 3 jours. Je peux vous dire qu'il marchait à ça des camions et ça. Et il a une espèce de détermination qui est monstrueuse. Et puis, curieusement, je l'avais emmené un peu plus loin pour qu'on dîne le soir. Il a fait que je ramène 14 kilomètres en arrière, exactement là où je l'avais laissé, pour qu'il continue à marcher. Et au risque de choquer.
Pour pas tricher, pour.
Oui, pour pas ouais. tricher, oui, mmh. c'est ça, oui. Pas question de faire 14 kilomètres en voiture pour gagner, même si on n'est pas vu. Mais ça, personne ne le voit. Et que j'en suis arrivé, mais vraiment le connaissant, je ne sais pas si nous sommes amis, en tout cas on a été très proches, mais c'est la personne, je crois, la plus honnête que je connaisse, et à laquelle je confierai les clés de ma voiture, mes enfants, etc., mais les yeux fermés. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, même de personnes que je connais mieux, et qui ont peut-être une image plus humaniste.
Mmh. On poursuit avec un autre son. Quand je pense à vous, je pense aussi à vos talents de cinéaste, mis au service de la musique. Vous avez notamment réalisé le clip de plusieurs chansons pour Pascal Obispo, J'ai choisi, je ne sais plus, je ne veux plus.
Je ne sais plus d'où naissait ma colère. Il a parlé ses torsons.
Et vous avez remis ça récemment, vous avez réalisé le clip de la chanson La Bonne Nouvelle, qui est tiré de la comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, qui a été travaillée, écrite aussi avec Pascal Obispo, composée par Pascal Obispo. Alors justement,
je dois dire que c'est moi qui l'ai écrit, le livret, et qui va faire la mise en scène. Ouais.
C'est ça, voilà.
Ouais, donc c'était à peu près normal que je sois sur l'aventure du premier clip,
ouais. Ouais, c'était logique que le clip.
C'est-à-dire que moi j'ai écrit un spectacle pour le théâtre et tout, faut faire un clip. Je vais pas chercher un réalisateur. Enfin,
la musique est de Pascal Obispo et vous avez fait les paroles.
Les paroles sont de Pierre-Yves Lebert et Didier Golmanas et j'ai fait tout le livret. C'est-à-dire le livret, c'est l'équivalent du scénario et la mise en scène, c'est du 23 octobre, à partir du 23 octobre 2017.
Alors justement, au Palais des Sports. Si on reprend le titre qu'on vient d'entendre, Je ne sais plus, je ne veux plus. Est-ce que vous aviez la même latitude en tant que réalisateur pour Je me demande toujours, pour réaliser un clip, est-ce que tout d'un coup, on donne les clés de la maison au réalisateur ou il y a un vrai scénario travaillé en accord avec l'artiste ou pas du tout ?
Il faut décrire en un certain nombre de lignes, ça peut être 5, 10, 15, notre idée.
Ouais.
Voilà. À partir du moment où on a dit, voilà, moi j'avais dit c'est quelqu'un qui essaie de se souvenir d'une histoire d'amour, qui essaie de revenir à l'origine. Cette musique de Marguerite Debord-Valmore évoque quand même le 19e, et je voyais un château vide dans lequel... À partir du moment où j'ai dit c'est un château vide, qu'il revisite, et il sait que la femme qu'il aimait écrivait toujours là-haut et qu'il va essayer de retrouver la lettre qu'elle lui a donnée, et puis c'est une quête, elle existe, et puis quand il ouvre la porte, elle est partie, elle n'existe plus, on me dit oui, quoi, ça va. Et puis après, en image, on va quand même me dire, oui, mais de quelle couleur, etc. Je propose des choses. Et une fois qu'on est sur le plateau, on est bien obligé de nous donner carte blanche. Et qu'il n'y a personne qui peut réagir. Ça va très vite, un clip. Hein. C'est une journée de tournage. Voilà.
Et ça, c'est une envie que vous avez souvent, les clips, parce que c'est un autre travail.
Que ce soit des clips ou de la comédie musicale, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on envoie une bande sur le plateau et on filme à travers cette bande. Parfois, ça donne des choses curieuses. Par exemple, il y a beaucoup de ralentis dans le clip dont vous parlez. Oui. On se dit, mais comment fait-il pour être filmé au ralenti et parler à la bonne vitesse? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait évident, parce que si vous filmez au ralenti, vous parlez comme ça, on passe la bande à 2 fois plus vite. Voilà. Donc, on passe la bande à 50 images. Et donc, c'est un peu curieux sur le plateau. Le morceau que vous avez passé, il doit chanter « Je ne sais plus, mais ma nouvelle !» Il chante cette idée-là, donc c'est pas très... Mais quand on a les images, voilà. Donc, une fois qu'on a fait un clip comme ça, en revanche, moi, je suis chanson par chanson, je ne pourrais jamais être marqué réalisateur de clip, parce qu'il y a des choses, moi, que je vois, que j'admire beaucoup, mais enfin, des trucs en carton dessiné qui passent des clips, enfin, je ne sais pas où ils vont chercher ça, et ça met là pour
la drogue.
Pourquoi monter une nouvelle comédie musicale, un spectacle, et pas en faire un film musical directement?
Parce que c'était il y a 3 ans, on est venu me voir et j'ai vu marquer Jésus de Nazareth. Je me dis, bon, ils sont fous.
C'est les 3 années
Les trois dernières années. D'accord. À partir du moment où j'ai commencé à y penser, j'ai demandé. Je pouvais pas y aller parce qu'on me disait c'est Pascal que j'aime bien, mais que j'aime beaucoup, auquel je trouve beaucoup de talent. Pas aller des sports, grosse production. C'est pas ça, ça me suffit pas, parce que c'est qu'est-ce qu'on va raconter. À partir du moment où je suis convaincu de ce qu'on va raconter, je peux subir les critiques. Mais si je le faisais pour des mauvaises raisons, je ne pourrais pas. Et surtout, comme je n'ai rien du tout, enfin, je suis baptisé, mais enfin, je suis pas pratiquant. Je voulais surtout pas qu'on entre dans quelque chose qui voulait dire, sous-entendu, du prosélytisme, etc. Je voulais pas non plus dire que c'était bien. Mais c'est vrai que quand j'ai relu les trois dernières années de la vie de Jésus, si on oublie que 4 siècles après sa mort, on a fait le christianisme, parce que sur l'instant, il ne sait pas qu'il est Jésus-Christ, il est Jésus de Nazareth, j'étais pris dans cette histoire parce que ça me faisait vraiment penser, moi qui avais fait un festival de cinéma à Cuba depuis longtemps, ça me faisait penser à Che Guevara et à Fidel Castro dans la jungle. C'est-à-dire que c'est d'abord quelqu'un qui se révolte contre l'ordre établi et qui est un rebelle. Voilà, et qui est rebelle. En revanche, si Fidel Castro lui prend la Havane un an après avoir débarqué sur l'île, Jésus, lui, quand il arrive à Jérusalem, enfin, c'est...
Vous doutez bien que...
Oui, je me doute bien de tout, bien sûr, je sais ce que...
Qu'il va y avoir quelques récupérations faites autour de cette histoire, en bien ou en mal, d'ailleurs.
Oui, mais comme pour les choristes, les instituts catholiques vont dire, regardez, ce film est formidable, mais il faut que ce soit qu'on fasse. Ça,
c'est un peu différent des choristes.
Mais on ne peut pas faire les choses par ce qu'on va craindre la réaction d'une certaine... Parce que sans ça...
Tu fais rien.
Si on fait rien, je veux dire, si on dit pas oui, c'est dangereux. Moi, j'entends beaucoup de personnes, quand on commence un projet, disent, faut faire attention. Ouais. C'est dangereux. Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce qui est pas dangereux? Alors, dites-moi. Oui, tout ce qui fait rire. Mais encore, ça peut être dangereux.
Ah oui, oui, oui. C'est sûr. Je rappelle donc les choristes. Hein, ça sera à partir du 23 février prochain au Folies Bergères, puis ensuite en tournée partout en France. Voici l'humeur de Frédéric Siris.
Bonjour à tous,
bonjour.
Monsieur Baratier,
bonjour.
Alors depuis le début de cette émission, hein, je crois qu'on peut le dire, on navigue gaiement au royaume de l'utopie. La musique peut sauver les enfants perdus, tout ça, j'ai l'impression d'être dans un programme politique de Benoît Hamon. Je pense qu'un petit peu de réalité ne ferait pas de mal à ce programme qui dérive dangereusement vers les rivages de la mièvrerie. Voyez-vous, monsieur Baratier, je pense être le mieux placé autour de cette table pour vous parler de l'éducation à donner à un enfant.
Mon Dieu.
Daniel Morin a certes une kyrielle d'enfants, mais il n'en a reconnu aucun. Et quant à Nagui, en tant que pur produit de ce que 68 a fait de pire, il est disqualifié d'office pour parler d'élever un enfant.
Merci.
Car de la même manière qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'amour pour moi, pour coucher avec moi, il n'est pas non plus indispensable d'aimer ses enfants pour les élever. Y a des plantes qui parviennent à pousser sans eau, et bien il y a aussi des enfants qui poussent sans amour, et ça n'est pas forcément un drame. Prenez mes enfants par exemple, ils grandissent sans amour, est-ce qu'ils s'en portent plus mal? Non, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est ça le secret, la nature ayant peur du vide. Si vous voulez élever un enfant sans amour, remplacez-le par la peur. Et voilà, et c'est tout aussi pratique, ça fonctionne, ou bien mieux. Je me souviens encore de cette fois où mon fils, sous l'influence néfaste de sa mère, quand je rentrais chez moi, s'est jeté sur moi pour me prendre dans ses bras et me dire « Papa, je t'aime ». Mais je l'ai puni direct. Qu'est-ce qui te prend, t'es hystérique? Tu me copieras 800 fois, je ne dois jamais dire à mes parents que je les aime. Alors ma femme a trouvé que c'était trop sévère sous prétexte qu'à 3 ans, on ne sait pas encore écrire et encore moins compter jusqu'à 800. Et je lui ai répondu, eh ben justement, c'est pour marquer le coup. Pourquoi à 39 ans, il faudrait que je m'oblige à prendre un enfant dans les bras pour lui débiter des âneries tout droit sorties d'une chanson de Vianney, alors que je lui offre déjà le gîte et le couvert? Oui, je sais, c'est ton ami, mais c'est pas le mien. Alors que je lui offre déjà le gîte et le couvert tous les jours. C'est pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière qui va avec, ça? Vous croyez que les sans-abri qui dorment dans des centres d'hébergement d'urgence, ils demandent aux travailleurs sociaux d'avoir des câlins et une histoire avant de s'endormir? Non! Ils sont reconnaissants et c'est tout! L'amour pour ses enfants, c'est un truc qui date du milieu du XXe siècle. À peu près en même temps que la pile alcaline. Avant, on faisait très bien sans. Et il y a encore énormément de cultures où on fait des gosses, pas pour qu'ils soient heureux, mais parce qu'on a besoin de bras.
Mais oui!
Mais oui! Tout ce que ces pédopsychiatres, adeptes de la communication permanente avec l'enfant, les Françoise Dolto, les Marcel Ruffo, tous ces auteurs d'éducation infantile qui vivent grassement de la dictature de l'amour à tout prix, tout ce que ces gens ne disent pas, c'est que quand vous élevez un enfant dans la peur, la vie est nettement plus facile. Grâce à la peur, au repas du soir, vous pouvez continuer d'avoir une conversation d'adulte avec votre conjoint ou votre conjointe sans être interrompu par des interventions souvent grammaticalement douteuses qui n'ont strictement aucun intérêt. Grâce à la peur. La corvée du coucher ne traîne plus en longueur. Un regard et hop, votre enfant file au lit, les dents brossées, impatient d'échapper au réel en rejoignant les bras de Morphée. Grâce à la peur, plus de cadeaux d'anniversaire, plus de tours de manège, plus de gaufres, plus d'activités périscolaires. Grâce à la peur, vous êtes de nouveau à l'équilibre budgétaire. Et puis, excusez-moi, mais ce côté sauvé par la chorale, allez essayer de donner des cours de solfège à des Kaira du 9-3, vous allez voir où elle va terminer votre flûte à bec. C'est difficile à dire. Et quand bien même ça créerait des vocations, vous croyez qu'on va relancer la croissance française et faire baisser un déficit à hauteur de 100% du PIB avec des chanteurs lyriques? Mais soyons sérieux, voyons. Alors je sais bien que vous allez me dire, esclave de la tyrannie des bons sentiments que vous êtes, c'est cruel, on ne doit pas élever un enfant dans la peur et les brimades. Mais je vous rétorquerai. Se faire aimer d'un enfant, au point de lui être indispensable, quand on sait qu'on est logiquement condamné à ne pas lui survivre. Est-ce que c'est pas ça le plus cruel? Aime-moi, papa va bientôt s'en aller.
Oh non.
J'élève mes enfants dans la peur, non par la tyrannie, mais par abnégation. Car je sais qu'un jour prochain, quand je ne serai plus de ce monde, je laisserai derrière moi, non pas des enfants ravagés par la tristesse, mais des individus épanouis, ouais, enfin libérés. Ouais. Car pour moi, c'est aussi ça, être père.
Bravo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est malin. Mmh. C'est vrai que nous non plus, on pleurera pas. Nous allons évoquer quelques dates de votre vie, de votre carrière, Christophe Baratier. On va commencer, et puis surtout s'intéresser à ce que vous écoutiez en 1963. On n'est pas loin de la naissance.
Je suis né.
Ouais, je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore.
Oui, vous êtes né en 63, mais est-ce que vous avez été marqué par ces demoiselles d'Orange?
J'étais sur le tournage, j'avais 4 ans, j'ai des photos. C'était mon oncle, et mon père était l'assistant de Jacques Demy. J'ai des photos avec Jenny Kelly.
Votre oncle, c'est Jacques Perrin.
Ouais. Et puis c'est pas lui qui chante, c'est Jacques Revaux qui chante, l'auteur de My Way. Et la voix est très proche, hein. C'était très très malin.
La chanson de Maxence, c'est pour ça qu'on retrouve aussi un Maxence homme à tout faire dans votre
peut-être,
spectacle.
Oui, j'ai fait des liaisons comme ça, oui. On voit qu'on...
Non, vous dites peut-être. Quand
oui,
même,
mais c'est une liaison que, bon, d'accord, je veux pas. Enfin,
Maxence,
si on les voit,
c'est pas
mieux.
Le premier prénom.
Non, c'est pas
le
premier prénom. Mais Jacques avait appelé son fils Maxence.
Maxence.
Et je sais pas, Maxence, oui, je sais pas. On fait des liaisons comme ça pour qu'ils sont des clins d'œil au départ.
On est totalement dans la définition de enfant de la balle ou pas avec vous?
Ouais. Bah, je crois. Oui, maman.
Parce que votre maman était aussi
tout
dans
le monde,
ce métier.
Tout le monde était du métier. Et d'ailleurs, quand j'étais élevé par ma grand-mère, c'est parce que ma mère jouait. Elle était à Saint-Étienne et que mon oncle tournait tout le temps. Et elle me dit, il tourne, je comprenais pas trop ce que elle veut dire. Et quand je suis venu sur le plateau des Demoiselles de Rochefort, j'étais vraiment petit, hein, j'ai des souvenirs très épars, mais j'entendais de la musique partout dans les rues de Rochefort parce que c'était des, il y avait une seule caméra à l'époque quand je revois les trucs, ils ont vraiment lutté. Et je voyais mon oncle chanter. Donc, enfant de la balle, oui. Je me souviens pas d'avoir entendu autre chose à la maison que de parler de cinéma, de théâtre. C'était la seule manière de vivre.
Quelles études musicales avez-vous suivies? Vous avez appris le solfège, la guitare?
Ah oui, après j'ai commencé au conservatoire à Courbevoie, mais je suis rentré à l'école normale de musique, l'école normale supérieure, qui est l'équivalent du conservatoire en privé, mais à 14 ans, et je suis ressorti avec ma licence de concert à 21.
C'est quoi une licence de concert?
Licence supérieure de concertiste, j'étais guitariste classique, et à la fin il y a un concours, et à la fin donc on est, on est 4, et on a un programme très difficile, et on a la licence supérieure de concertiste, qui n'a aucune autre valeur que le fait d'avoir gagné un concours, on n'a droit à rien, mais néanmoins, on ne peut pas le passer non plus sans avoir fait tous ces degrés en solfège, harmonie, contrepoint et composition. Voilà.
Et ben justement, la guitare, c'est aussi ce que vous écoutez dans les années 90.
Bien, ça c'est exactement la version. Bien, je l'avais donné, mais c'est exactement. C'est précis. Hein. Ça c'est Carmen.
Pour 4 guitares.
Pour 4 guitares, adaptation de la suite. En fait, Carmen, il y a une suite qu'on joue souvent, ou avec les tubes. Et là, ils ont fait l'adaptation. Et ça sonne vraiment Carmen, parce que c'est quand même ça l'origine, c'est Séville. Hein. Carmen.
Dans ces années 90, donc, vous acceptez la proposition de votre oncle, Jacques Perrin, d'intégrer la société de production, de passer peut-être de l'autre côté du métier artistique, c'est-à-dire mettre un peu les mains dans le cambouis, dans la préparation, dans le financement, dans le montage.
Moi, j'avais passé 3 années après ma licence de concert à faire vraiment ce qu'on appelle le haut niveau des concours internationaux. C'est un peu comme l'ATP, on se retrouve toujours avec les mêmes guitaristes en avant gagne et ça. Et puis d'un coup, je me suis rendu compte que la guitare classique, les instruments que je rêverais, mais n'avait plus, n'entrait plus dans les salles de concert. faire, il y avait plus de c'était une mode était passée parce que je crois que c'est pas pour plein de raisons et je me suis dit oulala, je vais m'en trouver professeur de guitare et tous ceux qui m'avaient précédé, je voyais d'autres 14 heures de cours, 15, 30, puis on connaît maman et puis 45 heures, on n'est plus guitariste et j'avais peur que d'avoir donné à l'instrument quelque chose qui n'allait pas me rendre. Et par conséquent, en une après-midi, j'ai décidé d'arrêter. Et Jacques m'a proposé de venir avec lui. Les gens étaient stupéfaits parce que depuis l'âge de 14 ans, tous les étés, c'était 6 heures de gamme par jour. Il m'a dit, mais t'as perdu ton temps. Mais j'ai pas perdu mon temps du tout. Ça m'a formé.
Et ah oui, revanche, puis ça vous aide encore aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Et je suis rentré dans cette société de production, mais sans aucune volonté artistique. Je me mettais auprès de Jacques, la production. Et plus ça allait, plus je me sentais du mauvais côté, du chant et des lumières. C'est pas que je suis dans la lumière, mais je me sentais de dire à quelqu'un comment faire les choses, comment il devrait écrire un film. J'ai l'impression d'être pas très à ma place et j'avais l'impression de mieux le penser que lui. C'était un peu prétentieux, mais ça m'énervait, donc je l'ai fait moi-même, et c'est parti avec les choristes.
Et là, vous avez travaillé, donc, d'abord, sur Microcosmos, oui. Le peuple de l'herbe, Himalaya, l'enfance d'un chef, le peuple migrateur également. Et puis arrive, donc, le phénomène choriste, c'était en 2004.
Ça, c'est Microcosmos, c'est celui que j'ai composé, celui-là.
Les avions en papier.
Ouais, c'est le cerf-volant, je l'avais composé. C'est la première chanson que j'ai composée. Avec Bruno, on s'est partagé, on s'est distribué les chansons. On est dans le même style d'ailleurs pour ce nouveau spectacle. Alors qu'est-ce qui va rentrer ?
Il faut rappeler que les choristes sont inspirés de La Cage aux Rossignols.
Oui, La Cage aux Rossignols, qui est un film de Jean Dréville de 1945 avec Noël, qui a été tourné presque au moment du D-Day, une interruption. Et je suis reconnaissant encore aux ayants droit de ce film parce qu'il y a vraiment une inspiration très forte. Le personnage, le directeur sont nés vraiment de ces situations. Et c'est un film qui à l'époque, aujourd'hui, qui est considéré un petit peu oublié, mais dont on reparle, mais qui avait fait comme 5 millions d'entrées à l'époque, en 45, dans une France où il y avait 20 millions d'habitants en moins, donc le succès était déjà là.
Vous vous retrouvez en 2009, metteur en scène, et à ce moment-là, vous écoutiez.
À la télé, il y avait la 5 et puis TV6. Au ciné, c'était des belles, en voie de Genesis.
Le corps, cela,
non, mais c'est l'auteur des paroles, c'est un talent. Hein. Y a plein de
philosophes, mais plus de philosophie. Vous mettez en scène un Fedo.
Oui.
On tombe comment dans ce genre de projet au Théâtre National ?
Les gens de théâtre font partie de mon entourage depuis très très longtemps. Et un jour, Daniel Benoît au Théâtre National de Nice m'a dit : mais à force de parler de Fedo, pourquoi tu le mets pas en scène ? Et c'est ce que j'ai fait. Sincèrement, je vois tellement de différence entre travailler pour le théâtre et le cinéma. Dans la vie de tous les jours, bien sûr qu'il n'y a pas de caméra et de lumière, mais la seule différence, c'est qu'au théâtre, on a l'impression de faire un grand plan large d'une heure et demie, sans pouvoir le couper. Mais sincèrement, travailler avec les comédiens est pareil. D'autant plus que je voulais me situer dans Fedo, c'est-à-dire malgré tout, il y a un style qui est prédéterminé, qui n'est pas.
Il paraît que tout est écrit déjà.
C'est le chat en poche. Hein.
C'est chat en poche.
Le chat en poche. Ouais.
Donc tout est écrit dans Fedo.
Par Fedo, il note même le nombre d'ouvertures, de portes, de.
Oui, enfin, tout
est écrit très précisément.
Oui, c'est ça. Et donc c'est pour ça que il faut trouver des interprètes qui sont des interprètes qui ne veulent pas révolutionner ou quoi que ce soit, qui pensent pas d'abord à eux, il faut penser à l'œuvre. Parce que si des gens qui disent oui, mais attendez, je veux pas parler trop vite parce que ça fait. Ils confondent le rythme et la rapidité.
Le rythme de Fedo,
c'est d'un coup
les
trois répliques. Et d'un coup, un silence de 10 secondes va créer l'effet comique.
Ça reste très musical donc.
C'est totalement musical. Et quand un type arrive, bon, c'est à 4 temps, mais je veux le jouer à 3, je lui dis, bon, écoute, tout l'orchestre joue à 4 temps. Si t'arrives et tes mains, tu joueras tout seul. Oui, mais comme je préfère, c'est plus drôle. Oui, mais dans ce cas-là, tes partenaires, tu les ignores totalement. Et donc, j'ai même eu des problèmes là-dessus avec ça parce que c'est vraiment incroyablement, si on veut perdre le rythme, on perd les choses. Et quand on veut le conceptualiser, Fedo, c'est toujours, par exemple, des gens sérieux au début. La situation est parfaitement conventionnelle, et d'un coup, l'horloge se détraque. Mais si on montre des dingues au début, comme on l'a parfois fait, ça se détraque pas après l'ambiance. Donc, il faut vraiment commencer par des choses extrêmement sincères, et après, les gens disent sincèrement, et sérieusement, des choses absolument incohérentes. C'est ça qui est drôle.
Jouer de la musique, aimer la musique, ça vous permet aussi d'aimer aussi bien Carmen qu'MC Solar, c'est-à-dire d'avoir un spectre de goût.
Ouais. De la même façon. C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune... je ne fais pas de différence
aucune en me disant
est-ce que MC Solar c'est moins bien que Mozart ou tout, je n'y pense pas. Après dans l'échelle, c'est pas à moi de la pardonner, mais c'est comme on dit, vous changez d'univers avec Kerviel et Choriste. Alors c'est peut-être de l'extérieur, mais moi j'ai la même passion pour ce que je fais, donc j'ai pas l'impression de changer d'univers puisque je le fais avec la même passion. MC Solar, je l'ai admiré, je trouve ça admirable.
Vous retombez dans un autre projet en 2011, celui de La Guerre des Boutons. La nouvelle Guerre des Boutons.
Exactement.
Ça c'est la BO.
Ouais.
Ça doit être infernal pour un musicien de travailler sur votre BO.
Non, je m'entends bien.
Mais bah si, imaginez, vous êtes musicien, vous réalisez, ouais, vous savez exactement ce que vous voulez.
Philippe Rombi, là, qui a écrit ça, j'allais dire, on va partir plutôt du côté de John Williams, ça s'entend. Et il vient avec les partitions et tout, on discute précisément, quoi. Moi, j'ai vu des metteurs,
Pourquoi ne pas les composer vous-même?
Moi, parce que, là, pour le coup, je suis pas des orchestrateurs comme lui, Philippe, j'ai pas, c'est pris le, Philippe et Bruno sont des gens qui orchestrent. Un morceau en une demi-heure pour 65 musiciens. Moi,
vous pourriez écrire une mélodie et le donner en arrangement.
Tous, oui, mais au fond, j'ai l'impression d'être tellement proche. Et puis, moi, j'apprends beaucoup d'eux. Philippe Rombi, il écrit combien? 10 scores par an. Bruno aussi. Ce sont des gens, quand même, s'ils sont là, pourquoi est-ce que je vais essayer de dire, bon, mais écoute, je vais le faire comme monsieur, je ferai aussi bien que toi? Non, j'aime admirer.
Oui, c'est ce qu'on appelle des scores, hein, parce que.
Pardon, les scores, c'est les partitions musicales, oui. J'aime admirer. Et c'est vrai qu'ils sont, plus forts que moi en composition. C'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est être avec eux, voir les orchestrations, et on travaille. J'ai l'impression d'être un producteur avec eux, de composer d'une certaine façon avec eux. Or, moi, je vois passer, de plus en plus maintenant, je vois bande originale du film, machin, et je vois quoi? Il y a marqué divers artistes. Ah. Donc il y a pas vraiment de compositeur, et c'est de la playlist.
Non, et c'est plutôt des.
C'est la playlist préférée du compositeur, du disques, réalisateur.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors évidemment, bah, c'est bien quand il y a un mec qui sort, du métro au métro Calais au mois de novembre, on entend David Bowie dessus. Ok, bah ça, c'est mieux l'image. Le type, il est à la station Total, il prend sa voiture et puis on entend Lacrymosa du Requiem de Mozart. Bon, ça marche. Qu'est-ce que c'est formidable d'être en adéquation avec la bande son.
C'est pour ça qu'il fallait rajouter de la nouveauté dans les choristes. Il fallait qu'il y ait de nouvelles chansons et pas simplement faire un best-of.
Bah non, mais sans ça, ça aurait été vraiment du théâtre alors. Parce que là, il y a des gens qui confondent, ils pensent que c'est les choristes, c'est un concert. Mais non, ça va jouer, on va rejouer le film, ça sera très différent. Il y a d'ailleurs des scènes qui n'existaient pas. Dans le film, à un moment, quand il décide de faire la chorale, il dit « Je ne pensais jamais redevenir musicien, ne jamais dire jamais ». J'ai fait « De ne jamais dire jamais », une chanson de bravoure qui termine le premier acte. Et c'est pas non plus comédie musicale, mais c'est compliqué cette définition. Parce que parfois, j'ai dit quelqu'un qui dit « Ah, j'aime pas les comédies musicales ». Je dis, c'est-à-dire Cléopâtre, l'opéra. Donc pour lui, c'était synonyme de ça. C'était ce genre qui était comédie musicale, parce qu'il y a de la danse. C'est pas parce qu'il n'y a pas de danse que c'est pas une comédie musicale, mais là, c'est vrai qu'on est plutôt du théâtre parce qu'il y a un récit.
Non, mais enfin, dès l'instant où il y a un récit,
et ça se passe
en chante. En public et qu'on chante, c'est une comédie musicale.
Voilà, c'est ça. Mais le terme, curieusement, on dit attention, faut pas dire parce que ça fait peur.
Non.
Ah, souvent, on dit ça, oui. Faut pas dire que c'est comédie musicale, parce que ça fait peur. Enfin, on s'imagine. Oh! Ah, j'ai une surprise là, pardon, qui vient d'arriver.
Ah ben voilà, Pierre-Yves Duchesne, absolument, parce que nous allons parler avec Pierre-Yves Duchesne des comédies musicales. Alors vous avez carrément
c'est une belle surprise,
monté une école.
Je suis tellement content d'être là.
Oh mon Pierre-Yves.
Merci Nagui.
Une école de comédie musicale. Soyez bienvenue. Alors racontez-nous en quoi elle consiste.
Oh ben elle consiste.
Parce que c'est un peu étonnant de se dire on va aller apprendre à faire de la comédie musicale.
Quand j'étais jeune, il y a à peu près 35 ans, j'étais fou d'une émission télévisée américaine qui s'appelait Fame. Et je me suis toujours dit, je vais faire pareil. Il a fallu, moi, quand j'ai fait mes études, aller faire des kilomètres pour prendre un cours de chant, aller faire des dizaines de kilomètres pour aller prendre un cours de danse, aller faire des dizaines de kilomètres. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour rassembler tout ça. Il a fallu que j'attende d'avoir 35 ans bien tapé pour le faire. Et puis voilà, j'ai ouvert cette école.
Alors, vous avez aussi écrit, vous publiez le manuel de la voix, la méthode Pi 314, mais Pi, P-Y, pour Pierre-Yves.
C'est un gag d'éditeur, mais c'est juste, il existe beaucoup de livres sur le chant et sur le bien chanter, le bien respirer. Mais une méthode, comme une méthode de piano, qu'on puisse avoir sur un piano, en ouvrant une page, en disant, voilà, j'ai un problème de respiration, j'ai un intercalaire qui parle de la respiration, j'ai un problème de placement de voix, voilà, une vraie méthode, ça n'existait pas, donc je me suis dit, allez.
Vous l'avez dit, le premier truc à apprendre, c'est à respirer.
Première chose à apprendre, c'est à se positionner d'abord, à se posturer. On est tous
posturer, ça veut dire quoi? On peut
se positionner, quoi, se tenir droit, ouvrir son sternum, prendre un petit peu la lumière, et puis se dire.
Faites bien vous écarter du micro. Là, on va faire la méthode de la radio.
Voilà, c'est.
Mais par exemple, des chanteurs ou des chanteuses que l'on voit assis au piano ou recroquevillés sur leur guitare en train de chanter, c'est pas le premier conseil que vous donneriez pour la colonne d'air.
Effectivement, c'est pas le premier conseil que je vais donner à un chanteur. J'ai d'abord essayé de lui apprendre à se tenir, à s'ouvrir, à respirer. On respire très mal et puis on est conditionné par pas mal de choses. Hein. On est sur nos ordinateurs, regardez comment on est tous accoudés là sur nos tables. On n'a pas l'habitude de se tenir. Vous êtes parfaitement droit d'un guillemet.
Mais Nagui, c'est le seul qui est debout.
Une scoliose.
j'ai pas de chaise.
Il est debout.
C'est mesquin.
Donc voilà, oui. Commencez par pas le dire. Ne vous écrasez pas sur vos guitares, mais par contre, quand on s'écrase sur sa guitare, comme tu me l'as fait la dernière fois quand on s'est rencontrés, moi je veux bien qu'on s'écrase. beaucoup sur une guitare.
Ça va, tu vois, je suis très heureux de voir Pierre-Yves parce que
c'est une super belle rencontre d'il y a peu de temps.
Pas pour autant.
Racontez-nous, Christophe.
Non, parce que Pierre-Yves, je le connaissais, je l'ai vu sur scène. On pouvait le voir mode dans 4. C'était difficile de le reconnaître, mais il transmettait tellement que même à travers son maquillage de gros chat, je me dis, c'est quelqu'un que je veux vraiment rencontrer. Parce qu'il est à la fois, il fait cette œuvre et il a eu le courage de se lancer dans la première sérieuse école de comédie musicale en France, mais surtout un formidable interprète. Enfin, je dis pas, parce que là, on parle de méthode, on dirait que c'est un prof. Mais non, attendez, c'est un formidable interprète international. Et il a un talent fou. On pense souvent, d'ailleurs, on a souvent pensé, j'ai pas encore trouvé le personnage dans lequel faire entrer, parce que c'est quand même, vous avez vu, c'est 1m90, bien, il fait pas peur, mais il a des statures. Et c'est vrai qu'en revanche, il a une musicalité extraordinaire. On a fait une chanson, on voit comme ça pour s'amuser, hein. C'est une chanson des Gorilles. Il me l'a chantée, je dis, oh là là, si on fait un album, elle devrait être là. Parce qu'il a cette façon de chanter, justement, où on a l'impression qu'il chante pas, qu'il nous exprime quelque chose. Mais à la fois, il est capable aussi de performance vocale. Mais là, il chante avec un naturel qui fait pas chanteur, mais il y a beaucoup de travail derrière.
Alors, c'est ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de, parce qu'il y a tout un phénomène autour des comédies musicales. Il n'y a pas une année sans qu'il y ait une nouvelle comédie musicale qui existe.
Il y en a beaucoup à Paris, en souvent, il y en a
une dizaine. Énorme, en plus que ça. Quand on compte les spectacles pour enfants, je pense qu'on est à 25 ou 30 en même temps. Donc on a
quand on parle de choses sérieuses.
Après tout est sérieux à partir du moment où on fait les choses sérieusement, je pense.
Après avoir connu des échecs, faut pas oublier que la première représentation de Starmania n'avait pas été un succès. Ça s'était arrêté au bout de quelques semaines. Les Misérables se sont totalement vautré en France en étant un énorme succès à New York et à Londres.
Alors, ça joue depuis 25 ans, 30 ans là-bas.
Oui, je peux vous en parler. J'étais dans la production 91 des Misérables. J'avais la chance de chanter et Marius et Courfeyrac et Enjolras. Ça a été pas vraiment un échec. On a tenu 11 mois. À l'époque, quel spectacle avec 150 personnes incluses dans la production, c'est-à-dire tout ce que ça induit, pouvaient tenir 11 mois à Paris.
Spectacle de Claude-Michel Schoenberg, mais comment se fait-il que ça dure depuis 25 ans à Londres et à New York et pas
parce que c'était culturel là-bas et parce que dans toutes les écoles...
Les Misérables de Victor Hugo.
La comédie musicale, c'est culturel dans toutes les écoles. À 8 ans, les enfants chantent Les Misérables ou chantent Le Fantôme de l'Opéra. Chez nous, il a fallu le temps que des précurseurs prennent leur bâton de pèlerin et arrivent en disant, voilà, on va former des gamins. Nous, à l'ICOM, on forme des gamins de 6 ans. De 6 ans jusqu'à 15 ans, ils sont formés 9 heures par semaine au chant, à la danse.
Et c'est particulier parce que là-bas, en plus, ils l'appellent The Mise.
The Mise.
LZ.
Oui.
Les enfants, je crois même pas qu'ils savent qu'il y a Victor Hugo derrière, hein, je suis pas sûr, là-bas aux États-Unis. Ouais.
Sans doute pas, malheureusement, mais peu importe, c'est une manière de faire rentrer une histoire, et puis le jour où quelqu'un grattera un tout petit
mais
peu.
Mais bien évidemment, c'est très curieux que quelque chose qui est tellement patrimonial pour nous comme ça. C'est vrai qu'après la 91, Cameron McIntosh, un producteur, a dit, ah oui, mais attendez, il y a pas assez de chansons, c'est pas assez long. C'est rare qu'on lui dise ça. Il l'a adapté à des standards plus américains, les chansons sont transformées tout en gardant oublié. Et d'un coup, le succès est venu là, et après maintenant, quand on voit à Paris Les Misérables, c'est que la plupart du temps on voit quand même en version originale avec la mise en scène au cordeau qui a été faite. C'est presque comme une franchise dans laquelle on n'a pas besoin de toucher. Et c'est quand même curieux que ce sont les Américains dont on dit qu'ils sont tellement protectionnistes, la façon de vivre américain, qui l'ont fait venir et qui le vénèrent depuis 30 ans.
Clairement,
alors que nous, on a tout le fait tous les 6 ans.
D'autant plus que c'est nous qui l'avons inventé, la comédie musicale.
En plus.
C'est-à-dire
Offenbach.
Hein. Offenbach, oui.
Offenbach, 19e siècle, des gens qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient la comédie systématiquement. Ouais.
Et comment vous expliquez qu'il y a une telle différence de niveau dans l'inconscient collectif entre les Français et les Américains, on va dire. Surtout, je dis pas ça pour vous, Christophe, mais sur les grosses productions, quand on peut voir au Palais des Sports, au Palais des Congrès, entre les Américains et les Français.
Je te laisse parler, Christophe, et moi, j'ai envie de dire, ce ne sont pas les mêmes spectacles. Et Dieu merci, parce que par goût, moi, j'aime plutôt les spectacles à l'américaine. Dieu merci, il arrive des metteurs en scène, il arrive des scénographes, il arrive des gens qui vont traiter le théâtre avec des vrais dramaturgies, qui vont traiter le théâtre musical.
Tu réponds pas à la question ?
Si, bien sûr que si.
J'ai pas compris, alors.
Vous pouvez répéter la question.
Je vais dire autre chose, qui est purement factuel aussi. Les Américains sont combien ? 300 millions, plus les Anglais, etc. Donc, ils touchent un public immédiat de 700 millions qui investit dans la production en général. West Side Story, il y avait des Anglais dedans, etc. Alors, quand on a tout ce réservoir avec une culture de comédie musicale et qu'on s'adresse à un public qui touche presque déjà le milliard...
Tu retrouves le producteur exécutif,
bien sûr. On n'a pas tout à fait les mêmes moyens.
Alors, moi, je voudrais savoir sur l'école de comédie musicale, est-ce que ça s'apprend ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment ceux qui rêvent en voyant les comédies musicales, en voyant ceux qui en sortent d'ailleurs et qui font des carrières.
Beaucoup de comédiens sont
Ce que nous a dit Lambert Wilson, qui était parti justement étudier en Angleterre pour pouvoir apprendre à chanter, à danser, à jouer.
Il y en a plein en France qui font des carrières solo suite à des comédies musicales. Donc ils se disent, je vais payer, je vais prendre des cours et je vais réussir dans la vie.
Alors on va commencer par le début. On va d'abord dire, est-ce qu'il faut que j'apprenne à me tenir? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à respirer? On reparle de ça tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que j'apprenne à dire du texte correctement? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à chanter les notes justes?
Non, ils peuvent aussi se dire, je vais faire cette école et je vais sortir diplômé d'une école, donc ça, je serai plus crédible sur mon CV pour trouver un rôle.
J'espère que c'est pas le cas. Mais il doit y en avoir. Mais j'espère que c'est pas parce que tu passes par une école que tu es plus crédible. J'espère que tu penses que tu vas te former et que vas devenir...
Ils peuvent se le dire.
Ouais, c'est un peu dommage. C'est pour cela que nous sommes des garde-fous. Et que vraiment, très régulièrement, on leur dit, on fait pas de stars, on fait pas d'artistes Kleenex ici. On va essayer de faire des artistes qui, voilà, polyformés.
Allez, moi, je pense que c'est un peu comme, l'école normale. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose qui est importante quand on est surtout en devenir pour les gens qui ont 20 ans. Ils prennent pas de cours. Très bien, ils peuvent, mais ils attendent tout téléphone. Oui, mais mon agent, mon casting, etc. Là, chez Pierre, dans son école, on peut prendre 30 heures ou 40 heures par semaine parce qu'il y a la danse, il y a des styles, on apprend des styles, on peut déchiffrer.
Histoire donc la comédie musicale, le solfège.
On ne s'en lit pas et on est toujours autour de nous. Il y a des gens qui font la même chose que nous, il n'y a rien de mieux pour progresser.
Il y a pratique et théorie. Et pardon, ça coûte cher, cette école de comédie musicale?
675 euros par mois pour 40 heures de cours la première année, et c'est dégressif. Je crois 500.
Oui, donc c'est pas un truc de fils à papa qui coûte une blinde.
Surtout que nous essayons de faire un maximum de bourses, c'est-à-dire que c'est pas une école qui est rentable parce qu'il y a pas mal de boursiers, il y a pas mal de gens à qui nous offrons la formation. On a arpenté la France et les pays francophones pour trouver des perles. On appelle ça les élites, mais les élites ne payent pas chez nous. Donc voilà, c'est un peu.
C'est comme à Florent, il y a
la classe libre chez Florent, si vous voulez.
Et puis il y a cette méthode, donc, avec cette vanne Pi 3-14, Pi pour PY, Pierre-Yves Duchesne. Merci d'être venu.
Merci Nagui.
Merci Pierre-Yves. Daniel, on voit que Paris est devenu une place forte de la comédie musicale dans le monde et on peut s'en réjouir, comme le disait
Pierre-Yves. Oh la vache! Oh, c'est beau quand les mots valsent dans votre bouche, monsieur Guy.
Vals?
On dirait du Christophe Maé qui chante du Christophe Maé.
Il est où le bonheur?
Ça donne envie de mourir de joie, évidemment. Non, monsieur Guy, on ne peut pas se réjouir. Écoutez, je parle vieux français. Hein. Il ne faut pas se réjouir de voir Paris noyé sous ce flot abject de comédie musicale.
Ah bon, pourquoi ?
Et puis, monsieur Guy, puisque vous félicitez de ce succès, pourquoi ne pas faire un taratata spécial comédie musicale ?
Il y en a eu.
Ah non,
c'est vrai. Non.
On fait moins le malin d'un seul coup, vous imaginez ? Faites du bruit pour Christophe Maé qui nous chante Notre-Dame de Paris ! Il est où le temps des cathédrales ? La comédie musicale, c'est un truc pour faire passer des banalités sous prétexte de chansons. À ce moment-là, il n'y a qu'à faire les infos en comédie musicale tant qu'on y est. A remarqué, peut-être l'occasion de découvrir une Laetitia Gaillet sous un nouveau jour. Et pour finir, un mot de sport.
Ce soir, c'est Ligue des Champions, des joueurs avec un ballon.
À suivre le retour de la bande originale avec
Nagui. Il s'appelle Nagui, il est tout petit, animateur pas comme les autres, il rit tout le temps, c'est pas de sa faute, on dirait qu'il vit tout le temps sous extase.
Prochain flash à 13h. Voilà comme quoi à Paris, place forte de la comédie musicale, source de réjouissance. Que nenni, une fois encore, je suis désolé mon bon monsieur, mais vous avez dit
n'importe quoi.
Merci. La bande originale.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Siré.
Bonjour.
Daniel.
Ah, bravo Daniel.
Et notre invité, Christophe Aratier.
Christophe qui revient entre guillemets avec l'adaptation des Choristes à la scène. C'est plus qu'une adaptation, ces Choristes, à partir du 23 février aux Folies Bergères. Vous avez pratiquement réécrit l'histoire, vous avez respecté l'histoire, mais en y rajoutant des scènes, en y rajoutant des chansons qui n'étaient pas dans le film.
Oui, les fondamentaux du récit sont les mêmes, mais il fallait l'adapter. Mais précisément, je ne l'ai pas adapté en disant, vous allez voir, ça va être tout nouveau. Mais en revanche, j'avais envie que les gens retrouvent ce qu'ils attendent, tout en étant surpris.
15 millions de personnes ont aimé, et plus encore, ont aimé les Choristes. Il y avait une évidence pour vous à faire un spectacle musical, ou au contraire, une crainte, un doute, en se disant, non, il faut pas que j'écorne éventuellement l'objet, le film.
Je dois rendre hommage d'une certaine façon à c'était pas le moment de le faire, mais deux mois après la sortie, j'ai eu un appel de Gérard Louvain, qui me dit que ce serait une très bonne idée de le faire sur scène. Simplement, il y avait quelque chose qui était immédiatement, fallait reprendre la distribution, fallait immédiatement aller sur scène. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas être une adaptation, ce sera un produit dérivé. On remet vite tout de suite sur scène les éléments pour que ça marche, ça me semblait trop tôt. Et puis bon, le film, on a passé un an à faire une promotion. Et puis je pense que les gens voulaient à ce moment-là retrouver Junio sur scène, retrouver. Et l'atmosphère avec le petit Jean-Baptiste et tout ça. Enfin, il y a quelque chose qui s'est distendu. Et donc on l'a pas fait, mais en revanche, on m'a proposé après Les Choristes 2 au cinéma. Et ça, j'y penserai même pas une seconde.
Au Choristes 2, pourquoi?
En cinéma. Bah, qu'est-ce qui peut se passer?
Mais alors, pour il faire sort des de mais attendez, c'est vous le scénariste, c'est pas moi. Non,
et puis il revient, il oublie quelque chose, ou alors il va faire plusieurs internats, ça va dire. Non, mais. Et là, je me suis dit, en revanche, la belle idée, ce serait effectivement.
Il y a tellement de films qui sont déclinés en deux, trois, il y a tellement de sagas qui.
Oui, mais là, qu'est-ce qui fait? L'histoire était fermée pour moi. Alors, non seulement ça aurait été moins bien que le premier, mais ça aurait été porté en plus un regard péjoratif, un miroir péjoratif sur ce qu'on a fait. En revanche, c'est vrai que l'idée de faire une véritable adaptation sur scène, c'est drôle parce qu'en ce moment, j'étais en plein. Non, et je me suis dit, non, mais je peux pas faire ça parce que c'est pas dans le style. J'ai pas fait du tout. J'ai pas écrit un dogme, mais en réalité, je me rends compte que ça fait choriste ou ça le fait pas. Et j'ai écrit des scènes, et immédiatement elles sont dans le ton.
Il y a même eu une émission de télé-réalité qui a suivi le succès des choristes, qui s'est appelée Le Pensionnat ou ainsi de suite.
Ou l'internat, oui.
Voilà, ou l'internat. Donc il y a eu un effet de mode quand même.
Ah oui, il y a eu Les 500 choristes aussi, une émission qui s'appelait Les 500 choristes. Ouais. C'est parti de là, vous savez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au début, quand j'arrivais avec ce scénario, franchement, les gens me disaient, bon écoutez, c'est sympa ton truc, mais enfin c'est vraiment un truc, c'est très pointu, les choristes, c'est une petite niche. Et puis comme d'habitude, après, ça a un succès, et tout ce que je disais, c'était magnifique, c'est génial. Je pouvais arriver dans une chaîne en disant, regardez mon pitch. Alors, je disais, c'est un monsieur qui rencontre un autre monsieur, ah, c'est fort.
Donc après, ça sent bon.
On passe d'un côté au l'autre. Encore bon. Ça faisait ringard, puis après, ça faisait commercial.
C'est que maintenant, ça y est, vous êtes bankable.
C'est à ce moment-là qu'on fait ses erreurs. Parce qu'évidemment, tout le monde nous croit, et c'est là qu'on se prend les pieds dans le tapis.
On n'est pas bien conseillé, c'est bien. Vous êtes très objectif. Quel est justement pour vous le danger principal de ce rendez-vous du 23 février aux Folies Bergères?
Le seul danger,
du direct.
Je peux vous dire que je pense pas aux incidents parce que les incidents, on a toujours le public s'en rend pas compte. En revanche, le danger que je vois, c'est qu'il y ait. Non, il y aura pas ce danger-là que je vois. Ils sont foutus de notre gueule. Ça, c'est pas possible. Des gens, il a voulu faire le malin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On reconnaît personne, ça. En revanche, si les gens voyaient une photocopie couleur du scénario avec des projections du film derrière, sous-entendu, c'est une espèce de ciné-concert-spectacle.
Non, mais c'est pas le cas.
Les gens. Alors, moi, je pense que peut-être les gens vont être au pire. Dans le pire des cas, il y aurait une déception par rapport à une attente. Mais je crois pas du tout. Parce que j'ai l'impression que c'est en train de flamber et qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout, c'est que l'émotion qu'ont ressenti les spectateurs à l'époque en ayant devant eux la musique, mais mécaniquement, l'avoir devant nous par des enfants en direct, ça crée tout à coup quelque chose qui est comme la réalisation en direct de quelque chose dont on a rêvé et c'est très fort.
Et puis il va y avoir aussi une nouvelle génération de public.
Elle existe déjà, puisque quand on se promène parfois, c'est des gamins de 10 ans qui me demandent de signer Les Choristes, donc ça continue. Ça, c'est malgré moi, j'aurais jamais pu le prévoir.
Et puis il y a une histoire d'amour dans ces choristes. Il y a
elle est plus développée que dans le film d'ailleurs.
Voilà, c'est
parce qu'il y a plus que 4-5 personnages et le personnage de la mère s'exprime davantage. On comprend un petit peu mieux qui elle est, et on comprend aussi pourquoi le pion tombe amoureux, mais malheureusement, je crois qu'il est destiné à se prendre des râteaux, en tout cas avec les femmes. On a vu le film, si j'avais tout les gens ont vu le film, si ça terminait par un mariage, les gens se diraient on a
non, mais il y a aussi des gens qui peuvent venir voir la comédie musicale sans avoir vu le film, quand même.
Oui, c'est vrai.
Ça existe. Je veux dire, il y a eu 8 millions de spectateurs en France.
Vous avez l'air de douter.
Non.
Ah oui, je pense qu'on sent dès le départ que c'est un petit peu cuit pour lui.
Il reste 60 millions de gens qui peuvent encore venir vous applaudir. Voilà.
En tout cas, les personnes qui ont vu le film n'auront pas l'impression que je leur ai servi un truc photocopié ou que j'ai fait un clone parce qu'il y a de nouvelles choses à découvrir. Mais qu'en même temps, ils vont pas se dire, ah oui, mais il a voulu nous montrer que. Non. C'est exactement dans le style et on s'en rend même pas compte.
Les choristes, à partir du 23 février, ça sera aux Folies Bergères et ensuite partout en France à l'automne. Voici l'humeur de Daniel Morin. Oui. Quel bel homme.
Aujourd'hui, c'est sorti ciné, les amis. Et comme les choses sont bien faites, une comédie musicale est au menu. La La Land.
Ah oui,
comédie musicale qu'on annonce comme un film de légende totale. Et c'est un film.
France Inter.
Youhouhou! Oh, ils auraient dû faire ça depuis le début, Inter. Même avec leur film déprimant, ils auraient dû demander à ce que ce soit en comédie musicale. Je sais pas où c'est un tournant, mais ils auraient dû faire ça depuis le départ. Quand tu chantes, ça change tout. France Inter et Prozac Movies présentent Misère. Une comédie musicale qui donne envie d'être malheureux. Jean-Claude est malade. Il habite une région maudite et... Bien sûr. Je sors de Pôle emploi et il n'y a pas de boulot pour moi. Je reste chômeur. Oh oui, je reste au RSA. Je n'ai plus de pognon. Bien sûr, j'ai plus d'allocation. Oh, oh oui, c'est l'enfer. Bien sûr, je vis dans la misère. Heureusement, il reste l'amour. Quoique... Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? L'amour rend pas toujours heureux, c'est douloureux. Je crois que j'ai la syphilis. Oh, ça me brûle, oui, j'ai bobo. Une saloperie de chaud de pisse qui m'a coûté 50 euros. Jean-Claude n'a pas de chance, il rate tout dans sa vie de misère, même son suicide. Du haut de la tour Eiffel, je me suis jeté comme un oiseau. En bas, j'ai rebondi sur le toit d'une Renault Clio. J'ai les deux yeux crevés, je me suis brûlé tous les os. Maintenant, en plus d'être pauvre, je vais passer ma vie à l'hosto. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Jean-Claude, en plus de tous ses malheurs, va-t-il attraper une maladie nosocomiale? Vous le saurez en allant voir Misère, la dernière comédie musicale en partenariat avec France Inter. À demain.
Merci Daniel.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Oui, c'était Daniel Morin et c'était bien.
Bon, merci, monsieur Guy.
T'imagines si on fait toute l'émission comme ça,
c'est Daniel chantant aujourd'hui là.
En l'écoutant, il y a un sujet de réflexion, c'est que je me suis dit.
Non, il y a le sujet médical, mais pas de réflexion.
Il y a le triste et le tragique. C'est que quand on voit Carmen et la Traviata, ce sont des gens qui meurent et tout, mais ça ne nous paraît jamais triste. Or là, ce que vous disiez, c'était triste. Parce que c'est pas tragique, c'est juste notre vie de tous les jours.
C'est la vie de tous les jours.
Il y a une différence quand même.
Entre le fond et la forme.
Le déprimant, il y a le déprimant, il y a le truc qui va nous bouleverser, il y a le truc déprimant simplement.
La réalité qui nous donne envie de pleurer, et pourtant qu'on célèbre tous les jours ici.
Il a vraiment dit ça. Voici le brouillon de culture, il a vraiment dit ça un jour. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudedi pour Christophe Baratier, notre invité.
Christophe, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence avec un son qui devrait vous rappeler de jolis souvenirs.
Je travaille dans un autre restaurant à la Villette. Il y a un type là-bas, un antiquaire, qui me fait la cour tous les soirs. Je me suis installée définitivement dans le provisoire. Je viens voir Nathalie, je suis sa mère.
T'aurais pu prévenir.
Mais je suis imprévisible, tu sais bien. Et ta voix, maintenant, c'est l'égyptologie.
En ce moment, elle travaille sur un site très intéressant.
C'est un extrait de la bande-annonce de La Dilettante, de Pascal Thomas, avec Catherine Fraud. Et c'est, selon ce que j'ai pu lire, votre seule expérience de comédien.
De comédien, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a marqué, c'est sur IMDB où il y a marqué ça, on le sent systématiquement, IMDB ça traque tout.
Ouais.
Pascal m'avait dit, ils sont sur un bateau, est-ce que tu pourrais jouer avec un bandoneon, je sais pas, je viens. Et je chante même pas, la caméra doit passer devant moi à peu près 3 secondes. Et maintenant, partout, on me dit, vous avez commencé votre carrière de comédien avec La Dilettante de Pascal Thomas. Jouez le rôle du guitariste. Je lui dis, ah oui, c'est fabuleux, parce que c'était comme ça. Et donc,
c'est une figuration fois, je dis, pour vous?
Non, mais je pourrais faire une légende. Oui, Pascal m'a coupé, mais c'est le montage. Non, c'est absolument vous, j'étais venu rendre service gratuitement.
Vous figurez dans le film. Mais au-delà de ça, c'est justement pour vous emmener sur cette possible envie d'être comédien, parce que vous, vous composez de la musique, vous réalisez des films, vous réalisez des clips, vous écrivez des scénars.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que vous pouvez avoir une envie aussi d'être de l'autre côté de la caméra? Pourquoi pas?
En fait, je l'ai fait parce que j'ai fondé une troupe de théâtre à 18 ans qui jouait du guitrion, jouait des pièces en un acte. On a joué beaucoup, c'était amateur, mais on adorait ça. Mais je me suis rendu compte, alors, pour le coup, que j'étais, je peux très bien vous jouer des personnages caricaturaux. genre le jeune premier ridicule de Fedot ou un personnage de mauvaise foi. Mais il faut que je surjoue. Enfin, pas si je surjouais, la caricature. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la caricature est souvent considérée comme péjoratif, alors que faire une très bonne caricature, c'est difficile. Il y a des bonnes et des mauvaises. Mais en revanche, il faut que je sois au deuxième degré. Mm-hmm. Si jamais je dois prendre l'air triste, réellement, et habiter, j'ai l'impression que je vais être ridicule. Et... Mais en revanche, si je fais des personnages, oui, des personnages grotesques, un petit peu empoulés, de mauvaise foi, ça, je pourrais le faire, mais je vais pas demander à le faire, en fait. Je suis pas frustré du tout de ça.
Et vous écrire un rôle, éventuellement, un jour, dans une comédie, et vous trouver ce rôle avec ces gros traits que vous pourriez incarner juste pour le plaisir.
Je préfère que tout à coup les choses se mettent en place naturellement plutôt que de passer par un côté réaliste, volontariste. Ouais. En disant, mais moi, parce que je fais beaucoup, pas d'imitation, mais je prends des attitudes dans la vie et les gens me disent, vous savez, c'est les gens qui croient qu'ils sont drôles, alors je vais pas vous le faire. Ça, c'est terrible. Parce que quand un acteur ici de comédie vient et qu'il fait ouah, 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 tout le monde trouve ça drôle. Mais quand un metteur en scène le fait, c'est consternant. Mais en revanche, les gens me disent, tu devrais faire ça. Mais je sais pas, non, enfin, je me prends pas.
Tout flatteur, vite aux dépens, point de suspension. Est-ce que le caméo vous a amusé? Est-ce que, par exemple, dans, je sais pas moi, le passant qui passe dans Les Choristes ou dans un reflet de miroir, on vous voit ou on pourrait vous voir en image subliminale?
Non, pas du tout, non, ça m'a...
Non, non, parce qu'il y a plein...
J'ai rien contre.
Il y a plein de réalisateurs qui font ce genre de, oui. De vannes.
Oui, je sais, et puis il y a aussi des réalisateurs, on me demande souvent...
Hitchcock, le premier.
Oui, alors il se met lui-même en scène, mais le pire caméo pour moi, c'est de faire jouer un copain qui est célèbre, enfin qui a de notoriété pour autre chose. Pardon, je pourrais parler de vous, Nagui ou d'autres. Et tout d'un coup, dans une scène, il vient ouvrir une porte et c'est Nagui ou c'est le chauffeur de taxi, c'est de Chaves. Et moi, je trouve que dans ce cas-là, le public s'arrête en disant pourquoi il a fait ça. Ils sont copains, c'est une demande. C'est vrai qu'il peut très bien dire la phrase sans aucun problème, mais ça me fait sortir du film parce que je me demande pourquoi.
Ce qui est fort dans Caméo, c'est que ça ne se voit pas.
Ça se voit. C'est fait pour ça.
Ça se sent.
Moi, par exemple, Nagui, quand vous faites du cinéma, vous faites un premier rôle, ça c'est totalement autre chose. Mais en revanche, moi, mais dans le film dans le film de Tavernier, qui parle de Quai d'Orsay en fiction, tout à coup, on voit Bruno Le Maire qui sort, il dit ah, bravo, hein, tu étais très bien, merci à tout à l'heure, c'est vraiment lui. Je me demande, ça veut dire quoi? Ça les a amusés. Ça a amusé Bruno Le Maire. Ils ont trouvé ça drôle. Mais rien que ça fait pas gâcher le film. Mais moi, pendant 3 minutes.
Ça vous sort de l'imaginaire.
Je me demande pourquoi il a fait ça. Et donc, je trouve que c'est juste, ça pollue quelque chose plutôt. Faire jouer un copain qui est connu pour faire chauffeur de taxi, j'ai l'impression que c'est un luxe dont on ne doit pas se permettre pour
Ça pollue à ce point-là, vous trouvez?
Ah, moi, pendant 3 minutes, je me demande pourquoi, Je me demande d'ailleurs toujours.
Et je finis avec un cadeau pour vous, juste un petit cadeau. C'est L'apprentissage de Dick Kravitz, un roman de Mordecai Richler. L'auteur n'est plus de ce monde, hélas, mais il est considéré par le...
des livres de mort.
Mais il est considéré comme une sorte de Tolstoï, de l'autodérision. C'est l'histoire d'un homme qui a bien décidé de réussir sa vie et qui considère que réussir sa vie, c'est d'acheter une parcelle de terre, c'est d'y construire une maison. Sauf que les choses vont pas se passer exactement comme prévu. C'est très grinçant et c'est surtout une très belle langue.
Ah ben, je vous remercie.
Voilà, c'est aux éditions du Sous-Sol, ça a été réédité récemment.
Merci.
Et c'est un très bel auteur.
Tu veux qu'il adapte au cinéma?
Ben, je trouve qu'il y a l'idée là-dedans.
À propos, c'est pas dédicacé, à propos, c'était la fameuse phrase dans Quatre mariages et enterrements où on dit, c'est formidable. J'ai trouvé ce livre dédicacé et le libraire dit, oui, j'ai jamais pu l'empêcher. Si vous en trouvez un qui ne l'est pas, il vaut une fortune.
Voici David Bowie avec Ziggy Stardust. On parlait de Ziggy tout à l'heure pour la comédie musicale et pour Starmania, mais voici le Bowie.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. While the
David Bowie avec Ziggy Stardust, notre invité Christophe Baratier, musicien, compositeur, auteur, scénariste, librettiste,
producteur exécutif,
oui, bientôt acteur. La place de la musique dans votre vie, on l'a compris, ça a été un détonateur de tout, c'est même essentiel dans votre écriture. Tout à l'heure, vous parliez à propos de Fedou, de rythme, de silence, c'est-à-dire en employant des termes de musicien. Vous pensez que justement tout, même dans l'écriture, dans les est une question de tempo et à sa musicalité.
Oui, un montage est un tempo. Je pense que même dans la vie, il y a un tempo. Il faut passer, on le sait parfois quand on dirige une troupe, par des moments où vous êtes un peu intérieur, il y a des moments où il faut être agitato, nervioso. Il y a des moments où même quand on parle à quelqu'un, il faut parfois pour les plaidoiries d'avocat d'ailleurs sont très significatives, ou même les discours poétiques, on commence par une espèce d'attaque et puis après on baisse le ton. Ouais. On commence, il y a de l'humour, puis ça devient sérieux. Les Anglais le font très bien. C'est trois vannes pour faire rire. Une fois qu'on a fait rire, on a l'attention. Et après, on peut glisser vers le grandiloquent. Quand on commence vers le grandiloquent, ça complexe, on dit. Et donc, oui, ça ressemble à ça. Et en parlant de la musique, c'est vrai que, par exemple, si on me disait, si j'arrête de faire des films, je suis plus cinéaste en réalité. Mais si j'arrête la musique, même si j'ai arrêté, je suis toujours musicien. Parce qu'il suffit d'avoir un instrument et ça y est. Et c'est pour ça que j'aurais toujours beaucoup plus d'admiration pour un grand musicien que même pour un grand cinéaste. Parce que quand on a un Steinway sur une salle de concert, on peut pas y aller sans avoir fait 20 ans de quelque chose. Alors que signer un film 2, même mauvais, tout le monde peut le faire. Le film existe.
Et vous jouez régulièrement, quotidiennement?
Oui, toujours, oui. Mais c'est grâce à la musique que je me suis offert, par exemple, une des guitares les plus belles dont je rêvais quand j'étais guitariste et dont j'avais pas les moyens de m'offrir. Voilà.
Ouais, enfin, c'est pas la belle guitare qui fait qu'on joue bien.
Non. Non. Mais ce qui fait, on a dans les mains un instrument qui nous donne à peu près 10 ans pour l'explorer. Voilà, donc on a toujours envie de la reprendre.
Il y a une émotion, il y a une histoire. C'est une guitare, c'est une guitare d'occasion qui avait.
Non, c'est une guitare. C'est en allant à Madrid chez un grand facturier qui s'appelle Contreras, qui fait à peu près beaucoup de guitares, enfin pour les études, mais de grands concerts, il en fait à peu près 12 par an. Et il me dit celle-là, il n'est pas venu la chercher, le mec. Et je l'ai essayé. Entre 10 et 20 secondes, j'ai dit oui.
Les choristes sur scène. La comédie musicale se jouera à partir du 23 février jusqu'au 21 mai au Folies Bergère. Puis, je rappelle que Folies Bergère, Folie, un S Bergère, il y a pas de S, parce que c'est la rue Bergère. Et par superstition, les propriétaires, au début, je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire voulait qu'il y ait 13 lettres.
Alors,
le 13 portait bonheur, donc il y a 13 lettres dans Folies Bergère.
Et comme c'est le temple de la comédie musicale, parce qu'on se rappelle peut-être que Bistinguette, quand elle disait, ou Cécile Sorel, quoi, qui disait, là j'ai bien descendu cet escalier, c'était les escaliers, qui d'ailleurs sont plus dans la salle maintenant, qui sont juste avant, qui sont dans le foyer, qui est absolument sublime. C'est un lieu chargé d'histoire, de musique, c'est ça qui est agréable là-bas.
Ah, c'est un joli théâtre. Est-ce que vous avez une. Il y a une morale, il y a des valeurs à retenir dans les choristes. C'est la.
Alors le mot valeur, ça m'a toujours embêté parce que valeur, ça on dirait que c'est un peu boursier, qu'il y a des choses auxquelles on peut pas s'attaquer.
Des valeurs humaines.
Valeurs humaines. en fait, je crois que quand je vous parlais de ton tout à l'heure, je m'apercevais que j'étais pas dans le style. Et je me dis, mais c'est quoi le style au fond? Parce que je le peux découvrir qu'une fois qu'on le fait, et je le sais instinctivement. Alors c'est plutôt une façon de voir les choses. Dans Les Choristes, en réalité, nous ne sommes jamais dans des scènes qui sont 100% dures et brutales, ou 100% comiques. On est dans des personnages un peu plus forts que la vie, caractérisés, qui font que c'est dans leur propre ridicule qu'ils deviennent drôles, ou alors c'est par leur propre maladresse qu'ils deviennent touchants. Et donc, on sait jamais si... Il faut jouer sérieusement, mais j'ai l'impression que l'émotion qui peut se créer est toujours balancée derrière par quelque chose qui va nous faire sourire. Pour ne pas justement donner au spectateur l'impression d'être complexé parce qu'il rit pas s'il trouve pas ça drôle, ou que c'est tout le temps de l'émotion. Alors moi je dirais que c'est volontiers ça. C'est-à-dire que on vit des choses difficiles, on vit des choses, mais essayons toujours de garder une espèce de sourire. Et en tout cas, je crois que le film montre qu'il n'y a pas de super-héros. Tout le monde est fragile. Et Clément Mathieu est quelqu'un qui pourrait avoir envie de se suicider. Mais non, parce qu'ils trouvent que ça vaut même pas la peine. Et donc, ça, c'est de...
Vous avez dit le film, mais on parle aussi de la comédie.
Oui, pardon, c'est les mêmes personnages. Bien sûr. Et j'ai toujours le sentiment que si jamais je me prends trop au sérieux dans une scène, il faut que le directeur soit extrêmement sérieux, mais en étant extrêmement sérieux, il devient extrêmement ridicule. Et Clément Mathieu est très touchant, mais il est très touchant par ses maladresses. Donc, j'ai l'impression que c'est une part comme ça, je crois, à la fragilité humaine, qui nous donne l'impression qu'il n'y a pas de super-héros, mais qu'au contraire, des anti-héros ont une très très grande place.
À partir du 23 février, aux Folies Bergères, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour Christophe Baratier, qui s'est bien fait arnaquer avec ce spectacle en bossant avec des feignasses de gosses qui peuvent même pas jouer tous les soirs. Désolé encore pour Christophe Baratier, qui s'est bien fait arnaquer avec son spectacle dont il doit faire 3 mises en scène pour le prix d'une à cause de ses feignasses de gosses. Désolé pour Baratier, qui s'est bien fait arnaquer avec ce spectacle chanté par la maîtrise des Hauts-de-Seine et qui va devoir reversé partie de son cachet, 80% ça va, à Patrick Balkany, mais en même temps c'est pour une bonne œuvre.
Merci beaucoup Christophe Baratier pour cette visite.
Dans l'humour il y a toujours quelque chose de vrai.
Ah, il y a du
fond. L'important c'est de rassembler
l'emploi.
Demain c'est Olivier Marchal qui sera notre invité pour parler du festival de la fiction de Luchon, et on vous laisse avec Philippe Bertrand et les carnets de campagne. Bonne journée
Christophe Baratier. Merci à vous tous, merci à vous.